RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Les républiques sécessionnistes proclamées de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine prétendent appartenir à la Nouvelle-Russie. Le terme est ancien, il remonte au gouvernorat de Nouvelle-Russie créé au XVIIIe siècle par l'impératrice Catherine la Grande. Ce territoire incluait à l'époque la Crimée, Odessa et s'étendait jusqu'aux confins du Niestre et du Danube. Aujourd'hui, toutes ces régions russophones du sud-est de l'Ukraine redoutent de basculer à leur tour dans la guerre. Autour des villes de la mer d'Azov, on creuse des tranchées en attendant l'extension des combats. Reportage le long de la route E52 qui file des rives de la mer d'Azov jusqu'à Odessa, Tiraspol et Transnistrie. Grand reportage signé Laurent Gélin. Laurent, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Depuis l'été, la ville de Mariupol vit en situation de quasi-siège. Les premières positions des séparatistes de la République populaire de Donetsk ne se trouvent qu'à quelques kilomètres de ce grand port industriel de la mer d'Azov. Natalia Lotuskova, professeure de français à l'université locale, essaie de garder la tête froide.
On peut dire que Mariupol vit en semi-normalité. Tout fonctionne, les écoles, les universités, les usines, tout ça fonctionne, mais on a peur. On a peur parce que nous sommes entourés des gens armés et on ne sait pas si demain on nous bombarde ou si on ne nous bombarde pas. La moitié soutient l'armée ukrainienne et le pouvoir ukrainien. Et les autres, ils sont contre, ils sont pour les rebelles. Parce qu'ils espèrent que la Russie arrive, la Russie apporte la paix, la Russie apporte beaucoup d'argent.
Avant la guerre, c'est par Mariupol que le Donbass exportait son charbon et son acier. Le port est vital pour l'économie de la région. Depuis le début de la crise, les immenses aciéries de la ville tournent au ralenti. Beaucoup de mines ont été détruites par les combats et le coke manque dans les hauts fourneaux. L'usine Ilitch, 27 000 employés, propriété de l'oligarque Rinat Akhmetov, est régulièrement touchée par des tirs de roquettes. Pourtant, Konstantin Pismaryuk, le directeur technique, reste optimiste.
Malgré ces événements, nous réfléchissons à notre développement dans l'avenir, ce qui est important. Nous avons de grands projets d'investissement, notamment dans le domaine écologique, pour notre ville et notre usine, l'une des plus grandes d'Europe. Il s'agit d'un investissement de 220 millions de dollars. Comprenez bien que si nous consacrons une telle somme à la mise aux normes écologiques de notre entreprise, nous pensons qu'elle a de l'avenir.
Le cessez-le-feu, aussi relatif qu'il soit, va-t-il tenir ? La guerre va-t-elle reprendre ? L'Ukraine retient son souffle et dans le sud-est du pays, sur les rives de la mer d'Azov, non loin des territoires tenus par les séparatistes, les villes se fortifient, les volontaires creusent des tranchées. Une initiative que le directeur du journal local de Berdyansk, Viktor Mikhailichenko, observe avec ironie.
Si les séparatistes arrivaient pour de bon, croire qu'on pourrait les arrêter avec des tranchées, ce n'est pas sérieux, sauf pour renforcer l'esprit patriotique.
Berdyansk est l'autre grand port ukrainien sur la mer d'Azov. Il bénéficie provisoirement du blocage de Mariupol, trop près des lignes de front. La ville abrite aussi des réfugiés du Donbass. Certains sont hébergés dans un ancien centre de vacances repris par le fonds Rinat Akhmetov, une organisation humanitaire financée par le richissime oligarque. Mineur de Donetsk à la retraite, Konstantin Karnok accueille des orphelins dans sa famille. Depuis l'été, il s'est réfugié à Berdyansk avec 9 de ses pupilles.
Tout le monde est parti parce que là ça bombarde, cela tire, parce que l'on ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Nous sommes une grande famille de 11 personnes. C'est une grande table tous les jours. Maintenant, dans notre quartier, presque plus personne n'est resté. Plus rien ne marche, ni les banques, ni les commerces. C'est la guerre.
Journaliste à Berdyansk, Valentina Tiachenko est originaire du Donbass. Pour elle, ce conflit est un drame intime.
C'est la guerre la plus bête qui puisse exister. Cela déchire les familles. Je suis ici, ma fille est en Crimée et elle ne peut pas venir me voir. Il ne devrait pas y avoir de frontière entre la Russie et l'Ukraine. C'est complètement absurde. Cela n'a aucun sens pour les gens.
On trouve ici aussi quelques patriotes ukrainiens qui collectent de la nourriture et des vêtements pour les soldats. Durant l'hiver dernier, Olga, esthéticienne de son métier, avait commencé à organiser la mobilisation dans la petite ville en soutien aux manifestants de la place de l'indépendance à Kiev.
Dans notre groupe, on parle peu de patriotisme. On ne porte pas de jugement général. On se rassemble et on a compris que l'État était seulement en train de se construire. Donc l'État, c'est moi. Je peux changer le pays, c'est simple. Je n'ai pas besoin d'aller à Kiev. Pour agir, il suffit de descendre dans la rue, ici, auprès de soldats, et de leur dire « Tenez, voilà une bouteille d'eau minérale, c'est pour vous ». Peu importe qui ils sont, et eux, ils n'ont pas à savoir qui je suis.
« 150 km plus à l'ouest, sur la route d'Odessa, la ville de Mélitopol redoute aussi l'extension de la guerre. Le journaliste Alexandre Oukachenko rappelle que la bourgade fut férocement disputée durant la Seconde Guerre mondiale.
Mélitopol a toujours eu un grand intérêt stratégique. C'est la porte de la Crimée, une ville qui se trouve au croisement de deux routes essentielles, l'une allant de Rostov à Odessa et l'autre de la Crimée à Moscou. Mélitopol est aussi un carrefour commercial. Il y a au moins 10 000 personnes en ville qui font du commerce. Mélitopol est toujours le théâtre de violents combats dès qu'il y a une guerre.
Beaucoup de Tatars de Crimée se sont installés à Mélitopol dans les années 80, en revenant d'Asie centrale où Staline les avait envoyés en exil. Issue de cette communauté, la journaliste Dilyara Koudousova ne cache pas ses craintes. Depuis l'annexion de la péninsule par la Russie en mars dernier, les Tatars de Crimée sont de nouveau victimes de discrimination.
Vous savez, l'âme souffre. Il y a déjà eu tellement de déportations des Tatars de Crimée depuis Catherine II. Pour faire une Crimée sans Tatars. Et l'émigration se poursuit toujours aujourd'hui.
Aujourd'hui, les Tatars qui disposent d'un passeport ukrainien ne peuvent plus se rendre en Crimée. Mais la péninsule n'est pas fermée pour tout le monde. Dimitri s'est arrêté pour une nuit dans un petit hôtel de Mélitopol. Originaire de Lugansk, dans le Donbass, il s'est installé avec sa famille à Féodossia, en Crimée, et il assure que la situation économique y reste bonne.
Dès que la Crimée s'est séparée de l'Ukraine, les télévisions ukrainiennes ont commencé à dire que les magasins étaient vides, qu'il n'y avait pas d'essence. C'est absolument faux. Il n'y a pas eu un seul jour où il manquait des produits dans les magasins et où il n'y avait pas d'essence.
Ce jeune entrepreneur fait commerce de matériaux de construction entre l'Ukraine et la Russie.
Pour les affaires, rien n'a changé. Les gens vivent comme avant. Beaucoup de retraités, beaucoup de militaires qui ont de très grosses retraites. Je travaille d'un côté comme de l'autre avec le passeport ukrainien et je n'ai pas de problème.
Après Mélitopol, au nord de la Crimée, une morne plaine agricole s'étend sur des centaines de kilomètres. Dans un petit village, une poignée d'amis se sont réunis devant une auberge plantée au bord de la route. Vahid fête l'achat d'une nouvelle voiture. Au menu, vodka et poulet à la caucasienne. Vahid appartient à la communauté mesquite. Beaucoup de ces Turcs du Caucase, chassés par le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, se sont installés dans le sud de l'Ukraine au début des années 90. Aujourd'hui, ils regardent avec effroi leur pays d'accueil s'embraser à son tour.
Pourquoi
elles se battent? On ne sait pas. Mais voilà, il faut se battre en avant. Mais pour qui? Contre qui? Ici, tout se passait bien avant. C'était la plus calme des républiques. Un pays tranquille, avec des gens bien.
Un peu plus à l'est, tout au bout de la route E58, le grand port russophone d'Odessa panse ses plaies. Le 2 mai dernier, des affrontements entre pro-ukrainiens et pro-russes ont fait une cinquantaine de morts dans le centre de la ville. C'était la première fois depuis la guerre civile de 1917 que des Odessites se battaient contre des Odessites. Le journaliste Sergueï Bibrov anime le groupe du 2 mai qui mène l'enquête pour essayer de faire la lumière sur cet événement tragique.
Le traumatisme qui a frappé la ville le 2 mai aura des conséquences politiques très longtemps. Ce ne sont pas des événements anodins. Ce n'est vraiment pas habituel pour nos concitoyens. C'est pour cela que chaque camp donne sa version. Les uns estiment que les événements de mai ont permis d'empêcher ce qui s'est produit à Odessa, un scénario comparable à celui de Donetsk et de Lugansk. Ceux-là pensent que 48 victimes au total, c'est un moindre mal. Les autres estiment que ce massacre a été planifié par le gouvernement.
À 70 km d'Odessa, Tiraspol, la capitale de la Transnistrie, une bande de terre de 150 km de long qui a fait sécession de la Moldavie au début des années 90, regarde les événements qui se déroulent dans l'est de l'Ukraine avec inquiétude. Ancien diplomate, Sergueï Chirokov se présente comme un analyste indépendant.
Tout ce qui se passe en Ukraine aura de sérieuses conséquences régionales. Dans le cadre de la Transnistrie, nous avons un problème, car nous ne savons pas quelles seront les positions des nouvelles autorités de Kiev. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse et nous n'en aurons pas de sitôt, car l'Ukraine a d'autres problèmes.
Je ne pense pas que nous les aurons bientôt, parce que l'Ukraine est occupée par des problèmes internes.
Kiev a longtemps servi de médiateur dans les négociations entre Moscou, Chisinau et l'Union européenne. Mais aujourd'hui, l'Ukraine a fermé ses frontières aux ressortissants de Transnistrie possédant un passeport russe par crainte d'une infiltration d'agents du Kremlin. Et la crise économique qui touche l'Ukraine a déjà de lourdes conséquences chez son petit voisin. En raison de la dévaluation de la grivna, la monnaie ukrainienne, les produits agricoles ukrainiens sont bien moins chers que les fruits et les légumes de Transnistrie et ils inondent le marché local. Tatiana Bilskaya est la directrice d'une ferme qui emploie 70 personnes.
Il n'est pas possible de vendre moins cher que votre coût de production. Sinon, il faut fermer la serre et arrêter de travailler. La situation est si difficile que je n'ai pas d'argent pour payer les gens qui travaillent, pour les salaires et d'autres dépenses. Par exemple, nous nous demandons, devons-nous acheter maintenant des engrais pour protéger les cultures dans la situation actuelle où les prix sont très bas?
La Transnistrie ne voit son salut économique que dans le partenariat avec la Russie. Elle a réitéré à plusieurs reprises ces derniers mois sa demande de rattachement. Pour l'instant, Moscou n'a donné aucune réponse.
Beaucoup de médias veulent comparer la Transnistrie à Donetsk et à Lugansk. C'est une grande erreur. Lugansk, Donetsk et la Nouvelle-Russie en général sont bien loin de la Transnistrie. Même si elles disent être des républiques, ces entités doivent encore tout construire. Elles doivent élaborer un système juridique et de facto construire un État. Elles se sont formées dans le contexte de la guerre, mais ce ne sont pas encore des États. Elles ont cependant réussi à s'imposer comme des acteurs politiques.
L'ancien diplomate sait pourtant bien que les petits confettis séparatistes issus de l'éclatement soviétique ne sont que des pions dans la stratégie de Moscou. Il conclut avec un sourire : la Transnistrie a proclamé son indépendance il y a 23 ans. Nous pourrions faire bénéficier les camarades de Donetsk et de Lugansk de notre longue expérience. Sur les routes de la Nouvelle-Russie, un grand reportage de Jean-Arnaud Derains et Laurent Gélin, réalisation Eva Moshinsky.
Laurent Gélin, bonjour.
Bonjour à vous, Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage et vous avez traversé durant une dizaine de jours les régions du sud de l'Ukraine. Alors quel est l'état d'esprit des populations qui vivent dans ces zones? Est-ce qu'elles redoutent l'arrivée des combats malgré le cessez-le-feu signé le 5 septembre dernier?
Oui, vous savez, le cessez-le-feu signé début septembre entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes est plus que théorique. Les combats sont quotidiens dans le Donbass, des victimes sont à déplorer tous les jours, tant chez les militaires que chez les civils. Au moment de la réalisation de ce reportage, des obus tombaient chaque nuit sur les banlieues du port de Mariupol. On peut donc le comprendre, c'est bien sûr l'inquiétude qui domine dans le sud de l'Ukraine. Tout le monde redoute une extension des combats, notamment dans les zones situées entre le Donbass et la Crimée, un corridor stratégique pour les séparatistes s'ils veulent assurer une continuité territoriale entre la péninsule et la Russie.
Alors Laurent, on a beaucoup évoqué la fracture linguistique de l'Ukraine pour expliquer l'implosion du pays, russe au sud et à l'est, ukrainien au centre et à l'ouest. Dans les régions que vous avez traversées, on parle russe. La population soutient-elle pour autant la cause des séparatistes?
Vous savez, comme toujours, la réalité est bien plus composite que les raccourcis idéologiques mobilisés par les uns ou les autres à des fins de propagande. Au sud de l'Ukraine, la population parle russe, mais l'immense majorité des gens souhaitent surtout vivre en paix. Bien peu sont ceux qui soutiennent directement le combat des séparatistes, même si tous ne sont pas de fervents défenseurs de l'État ukrainien. Par ailleurs, ce que nous avons essayé de montrer, c'est que l'Ukraine, c'est aussi un État où vivent de nombreuses minorités nationales, des Tatars, des Mesquites, des Hongrois, des Roumains et bien d'autres encore. L'Est de l'Ukraine accueillait avant la guerre des dizaines de groupes minoritaires venus de toute l'Union soviétique pour travailler dans les mines du Donbass. Ces populations se moquent bien de l'idée nationale ukrainienne ou de la stratégie de puissance de Moscou. Ces gens souhaitent juste vivre en paix.
Et Laurent, vous terminez votre reportage en Transnistrie, dans cette bande de terre de 150 km de long qui a fait sécession de la Moldavie, c'était au début des années 90. L'organisation politique pourrait-elle servir de modèle aux républiques populaires dont nous parlions tout à l'heure?
Eh bien, la Transnistrie a déclaré son indépendance en 1991. Cette entité a donc eu 25 ans pour construire son système politique, très autoritaire et sous la dépendance de Moscou, mais qui a le mérite d'assurer un toit à l'immense majorité de ses habitants. Toutes ces années ont aussi permis à Tiraspol de mener des négociations avec le gouvernement moldave de Chișinău. Les relations commerciales se sont par exemple normalisées entre les deux capitales. Pour qu'une organisation politique similaire puisse se développer dans l'est de l'Ukraine, il faudrait d'abord que les combats cessent et que Kiev reconnaisse sa défaite, ce qui est encore loin d'être le cas. L'autre différence essentielle, c'est que les régions de Donetsk et de Lugansk sont contiguës à la frontière russe. L'influence du Kremlin y est donc totale.
Ce sera le mot de la fin. Laurent Gélin, merci beaucoup. Grand reportage à réécouter sur RFI.fr.